on va passer à la seconde intervention autour aussi de l'œuvre de Gilles Hainaut. Alors, ce sera autour cette fois-ci de Philippe Peck. Philippe Peck, qui est poète, essayiste, qui est né au Québec en 1946, vit entre mariage et amitié.
Ça arrive.
Hommes et femmes, poèmes et pensées, adultes et enfants, librairie et jardin, chant et silence. Il est l'auteur de 13 ouvrages depuis 1975, dont des recueils de poèmes en prose qui mettent en scène la vie quotidienne et des essais sur l'enseignement et la pratique de l'écriture, mais également sur la littérature québécoise. Ah, parmi ces derniers titres, on pourrait noter « L'oreille rouge » en 2001, et puis « L'école des ponts jaunes ». Alors, Philippe Peck est intervenu dans à peu près aussi toutes les revues avec des tendances marginales ou d'avant-garde des années 70. On s'est retrouvé à quelques reprises à travers tout ça, qui a été un critique important de ces années-là. Alors, c'est avec grand plaisir que je lui cède la parole avec son très beau titre que je confondais avec le sourire de Philippe Peck qui est surréaliste, parce que je m'étais trompé en le transcrivant, mais c'est le sourire de Gilles Hainaut. Est-il surréaliste?
Juste une petite correction, c'est pas toutes les revues, quelques revues, je suis paresseux. J'ai aimé la confusion dans le titre entre le sourire de Philippe Peck, parce que je souris pas souvent, et celui de Gilles Hainaut, parce que j'ai devant moi, quand j'écris, une photo de Gilles Hainaut, qui fait un petit sourire. C'est, si j'avais un maître à me choisir, ce serait certainement lui. J'ai écrit des notes, parce que comme Hainaut, j'aime pas les longs discours. Et mes notes, c'est presque pas des mots à moi, la plupart du temps, c'est des citations des autres. Première citation, de Gilles Hainaut, bien sûr. J'ai donc griffonné quelques notes. Tout ce que je dirai s'ordonne à ce genre de dérive qui n'a rien à voir avec un texte d'analyse. Une certaine rationalité nous enferme dans des structures débilitantes. Pas question de table rase, trop souvent table à disséquer de nouveaux concepts, mais de table où s'accumulent toutes les nourritures terrestres pour un nouveau banquet. Deuxième citation de Hainaut. Tout ce qu'on t'a enseigné, jette-le par-dessus bord. Tu ne peux pas le faire, c'est vrai, parce que tu ne sais même pas ce qu'on t'a enseigné. Disons que c'est l'esprit des 23 notes qui suivent. Première note, la définition du surréalisme par Breton. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu les manifestes du surréalisme. Je pense que j'ai lu ça à 20 ans. J'en ai plus que 60 maintenant. À l'époque, j'ai aimé ça. J'avoue qu'à 60 ans, j'ai bien ri. Je vous lis la définition de Breton. Je trouve que c'est un morceau d'anthologie. Surréalisme. N minuscule, M minuscule pour nom masculin. Automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Moi, je soulignerais le mot réel pour quelqu'un qui va être surréaliste. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. E-N-C-Y-C-L point pour encyclopédie, P-H-I-L-O-S pour philosophie, je suppose. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'association négligé jusqu'à lui. Là encore, je soulignerai le mot « supérieur ». Breton est quelqu'un qui... Je vous laisse compléter. Donc, négligé jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, là encore, toute-puissance, au jeu désintéressé de la pensée. Désintéressé. Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie. Rien de moins. Résolution des principaux problèmes de la vie. Nomme-les, cher André. On fait acte de surréalisme absolu. Même chose, souligner le mot absolu. Et que c'est bon d'être surréaliste à 20 ans. Messieurs Aragon, Baron, Boisfard, Breton, Carive, Crevel, Delteil, Desnos, Éluard, Gérard, Limbourg, Malkin, Maurice, Naville, Nol, Perret, Picot, Soupeau, Vitrac. Je me suis demandé si c'était par ironie que Breton fournissait comme ça une espèce d'entrée dans un dictionnaire ou d'entrée dans une encyclopédie, alors qu'il voulait apparemment révolutionner beaucoup de choses. À côté de ça, j'ai regardé dans les poèmes de Gélénaud, et il y a un poème de Gélénaud que j'aime beaucoup qui a cette forme-là. C'est un œuf. Et j'ai lu l'œuf, et je me suis dit, mon Dieu, que c'est bon. Quand je regarde un œuf, je suis effaré. Effaré. La somme de mystères, de connaissances qu'il contient. Et là, tout le poème va donner tous les mystères de l'œuf. C'est un des plus beaux textes de Hénon. Quand on lit ça, on se demande pourquoi on continuerait à écrire, étant donné la complexité de cet œuf. Ouais. Et là, je me suis demandé quoi faire. Dans le fond, j'ai essayé de... Dans mon petit carnet, ça ressemble à une table de dissection. Je mets toujours un parapluie d'un côté et puis une machine à coudre de l'autre. On dit, mon Dieu, qu'est-ce qui peut bien arriver entre... la définition de Breton, puis l'œuf de Hénon. La première question que je me suis posée, c'est si, quand la poule pond un œuf, est-ce que c'est un geste automatiste? Ça me paraît une question importante. Assez bizarrement, j'ai plus de sympathie pour la complexité de l'œuf que les propos généraux de la définition de Breton. L'œuf m'apparaît tout d'un coup plus surréel qu'une belle définition philosophique assez prévisible. Deuxième note. Chez les surréalistes, quand j'étais jeune, celui que je préférais, c'était Artaud. J'avais commencé par aimer Breton, puis ensuite j'ai retiré Breton pour Artaud. Citation d'Antonin Artaud. « Toute l'écriture est de la cochonnerie. Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée sont des cochons. Toute l'agent littéraire est cochonne, et spécialement celle de ce temps-ci. » Mon Dieu, que je me délectais quand je lisais Artaud comme ça. À côté, un extrait de Gélénaud dans un texte qui s'appelle « Hommage à nos écrivains ». Puis ce fut l'invasion des barbares. J'appelle ainsi ces écrivains nouveaux qui ne vaccinaient pas du haut d'une chaire d'université, mais qui transcrivaient avec autant de talent que possible leur expérience de la vie. Autodidactes dans la mesure où ils s'étaient forgés une technique et un style personnel, en dehors des normes académiques, et grâce à une longue et passionnée fréquentation des auteurs anciens et modernes. Évidemment que Hénault dit jamais que toute la littérature est de la cochonnerie. Pour une raison bien simple, c'est que la différence de l'histoire était grande. Hénault appartient à la génération née dans les années 20. Et cette génération-là, c'est la première génération au Québec qui nous a donné des œuvres fortes. C'est là qu'on a, tout d'un coup, quelques écrivains qui nous donnent des bons livres. Avant, il n'y avait rien. Ou presque. Quand Artaud dit toute la littérature est de la cochonnerie, il y a évidemment tous les manuels français qui ont 4 siècles de grands chefs-d'œuvre. Donc, ce n'est pas la même chose. Artaud peut se sentir étouffé par tous ces grands chefs-d'œuvre. Ici, on ne se sentait pas étouffé par les grands chefs-d'œuvre, mais on se sentait étouffé par les professeurs d'université qui faisaient la loi alors qu'ils n'avaient presque rien écrit. Note numéro 3. Ah oui, c'est dans le manifeste, à un moment donné, Breton donne une liste d'écrivains qu'il trouve surréaliste. Et parmi ceux-là, il y en a 5 que Gélinot aimait beaucoup. Poe est surréaliste dans l'aventure. Rimbaud est surréaliste dans la pratique de la vie et ailleurs. Mallarmé est surréaliste dans la confidence. Jarry est surréaliste dans l'absinthe. Et Saint-Jean-Perse est surréaliste à distance. Ces 5 écrivains-là ont manifestement compté pour Gélinot. Surtout Saint-Jean-Perse, je dirais. Puis pendant que j'étais en train d'écrire ça sur ma table de ping-pong, Gélinot est arrivé. Je ne m'y attendais pas. Il s'est assis à côté de moi. J'ai dit que j'étais en train de faire un texte sur lui pour essayer de mesurer la teneur en surréalisme de son œuvre. Il est parti à rire, bien sûr. Et j'ai parlé des 5 écrivains qu'il nommait Breton, mais il disait que pour lui, il en manquait quelques-uns qui étaient importants pour lui, qui tenaient autant que ces surréalistes-là. Et il m'a ajouté une petite liste, la suivante. Jules Vallèze, à cause de son peu de goût d'être fouetté. Joseph Conrad, à cause de tous ces bateaux qui flottent entre les lignes de ses histoires. Anton Tchekhov, à cause de sa bonté. Paul Valéry, à cause de sa tête œuf. Jules Supervielle, à cause de notre condition de forçat innocent. Bertolt Brecht, parce qu'il ne s'est pas contenté de flirter avec le communisme. Lautréamont, parce que la poésie doit être faite par tous. Cyrano de Bergerac, à cause de l'utopie. Charles Péguy, à cause de ses préoccupations sociales. Je donnerai la définition suivante de surréaliste. Est surréaliste qui ne se contente pas de la surface du réel. 4e note. Citation de Breton. Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mène à tout. Ça m'a rappelé 2 autres proposition, celle de Gide, bien sûr, dans les nourritures terrestres. Il faut, Nathanaël, que tu brûles en toi tous les livres. Et Mallarmé, dans Brise marine, le premier vers, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. À côté, je vous lis ceci de Gélinot, dans la poésie et mots de passe. Que par un retournement, une générosité essentielle, la poésie redonne au centuple ce qu'on lui a prêté, cela ne fait pas de doute. Pourquoi? Parce qu'elle tend constamment, de par sa nature, à dépasser le stable, le cataloguer, pour révéler à la conscience de nouveaux aspects du mouvant. Citation maintenant de Bourdieu dans Revue Globale. Les lectures défendues se répandent. Elles apportent un peu de baume et d'espoir. Des consciences s'éclairent au contact vivifiant des poètes maudits, ces hommes qui, sans être des monstres, osent exprimer haut et net ce que les plus malheureux d'entre nous étouffent tout bas dans la honte de soi et de la terreur d'être engloutis vivants. Inutile de vous dire que je suis du côté de Bordua et Hénon. Pour moi, les livres, les bons, sont certainement des outils qui nous aident à tenir parole, alors qu'on fait tout pour nous faire taire. Les trois propositions de Gide Breton et Mallarmé, ça me paraît des phrases très élégantes, mais absolument fausses. Cinquième note. Oh, je pense que je vais passer par-dessus la cinquième note, quoique je l'aime. C'est un philosophe, j'aime les philosophes de temps en temps, qui s'appelle Léo Strauss, qui écrit un livre qui s'appelle « La persécution et l'art d'écrire ». Et il dit que quand on est pris dans des régimes politiques qui nous empêchent de parler librement, il faut écrire entre les lignes. Et j'ai trouvé dans un texte de Hénault ceci. Dans la conscience quotidienne, le mot correspond à peu près à sa définition, sinon à la chose signifiée. Or, le poète sait très bien que les mots, les vocables, ne sont que des bouées dans le flux du réel. Il doit tenir compte de ce fait et se comporter de manière que l'expression « lire entre les lignes » ait un sens. Et je ne sais pas pourquoi, moi, lire entre les lignes, effectivement, puis écrire entre les lignes, ça m'apparaît quelque chose d'absolument important. Et je pense que quand on écrit des manifestes, on fait exactement le contraire. Gélénaud n'aurait jamais écrit un manifeste. Je pense qu'il y a juste un manifeste que Gélénaud aimait, c'était le manifeste du Parti communiste. Moi, évidemment, j'aurais aussi des réserves pour un manifeste du Parti communiste, mais je respecte la position de Hénault, qui, toute sa vie, a fréquenté puis pensé Marx, Lénine et ainsi de suite. Il pensait à partir de cette chose-là, mais en évitant tout dogmatisme, je pense. La différence entre Breton et Hénault est la suivante. Pour Breton, la poésie est un mot d'ordre, ce qui n'est pas tellement joyeux. Tandis que pour Hénault, c'est un mot de passe. Et un mot de passe, c'est toute la différence. Sixième note. Breton encore. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. Vous aimeriez que je vous la relise. Citation de Gélénaud, tirée d'un texte qui s'appelle « Les faibles ». Diogène, Hénault aimait beaucoup Diogène, il se prenait pour Diogène. Diogène dit « Prenez garde, je suis un révolté parce que je suis un faible. Il n'y a que les faibles qui sont des révoltés. Mais alors, ils sont plus à craindre et font plus d'ouvrage que l'effort. » Puis, il ajouta, « J'ai pitié des foules et j'ai pitié de moi-même. » Dans un autre texte de Hénault, dans une lettre qu'il a écrite à un sous-ministre, quelques jours avant qu'on découvre le corps de Pierre Laporte, qui était, on a retrouvé le corps de Pierre Laporte dans une auto, corps mort à la suite des événements d'octobre ici, il dit, tout en condamnant le terrorisme et la violence, je croyais qu'un devoir d'amitié m'obligeait à témoigner en faveur de Gaston Miron, parce que le ministre de l'époque lui avait interdit de participer à un colloque sur Miron, qui venait d'être emprisonné pendant les événements d'octobre. Et troisième citation de Hénault, si je m'armais du revolver à trouer le cafard, ce serait le branle-bas des grandes fêtes. vous voyez la différence entre le revolver de Breton et celui de Hainaut. Évidemment que Breton essaye de justifier sa proposition choc en parlant du désespoir humain. J'avoue que ça me paraît tout à fait spécieux, mais en tout cas. Parce que qui va prendre un fusil et tirer dans la foule? C'est certainement pas un poète surréaliste, mais assez souvent la police et l'armée au service du gouvernement assez tyrannique. Septième note. Toujours Breton. Pauvre Breton, je l'aime bien. C'est ça, vieillir, hein? Les choses se déplacent. L'effroyable bête malfaisante qu'est la prétendue civilisation bourgeoise. Le monstrueux organisme oppresseur dont il s'agit universellement d'avoir raison. Hainaut. Pendant une longue période, la question des médias d'information, magazines, journaux, radios, sera déterminante. La lutte présentement se situe au niveau de l'information versus la propagande officielle. La population est soumise à un intense lavage de cerveau. On présente toutes sortes de phénomènes comme inéluctables, comme des phénomènes naturels que rien ne peut changer. La Confédération, l'inflation, le chômage, la misère, etc. Deuxième citation de Hainaut. « Aucune valeur bourgeoise n'a pour moi d'importance. Que quelqu'un me donne la main ou me serre sur son cœur, voilà ce qui compte. Tout le reste, il faut le dynamiter. » Moi, j'ai envie d'arrêter ici.
Merci. Alors, on remercie Philippe Eck, qui a remplacé la table de dissection par la table de ping-pong, où il a bien su montrer son goût pour certaines valeurs, hein, donc le mystère de la complexité de l'œuf en opposition à des mots comme supérieur, toute puissance, désintéressé et absolu. Alors, ces notes-là nous ont rappelé à la simplicité et au cœur, au centre de la démarche de l'écriture. Et dans sa lecture entre les lignes, c'est sûr que dans le revolver, on entendait, j'étais surpris, et il me semble qu'il s'est avancé vers le micro. Est-ce que j'entendais, est-ce que vous aimeriez que je vous le fasse? Mais je le soupçonne de ne pas être armé, mais il reste assez désarmant. Donc, on va revenir sur l'intervention de notre camarade.